RMC, Ligue de BKT, le débrief.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, le podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue 2. Toutes les semaines, on débrief les journées qui viennent de s'écouler avec des joueurs charismatiques. On embrasse tous nos amis en vacances, Gaëtan Weisbeck, Daniel Congré, Seb Salamonge, Romain Thomas ou encore Anthony Briançon. Un seul courageux est bien là, c'est Jordan Adeoti, le Lavallois. Salut Jo, ça va ?
Salut Benoît, ça va et toi ?
Eh ben ça va impec, et je tiens à te féliciter. C'était l'un des matchs fous de vendredi soir, puisque Laval est allé gagner à Amiens 2-1. Laval est allé arracher son maintien. Il s'est passé énormément de choses sur cette dernière journée. On va revenir sur tout ça, évidemment. Le Havre champion, Metz qui fait le boulot, les matchs interrompus. Votre folle soirée lavalloise, Ligue 2 BKT et le débrief, c'est parti.
C'est l'épilogue de cette saison 2022-2023. 10 matchs à suivre en direct et en simultané.
Sur un centre de la gauche de Christophe Lampéry, repris au second poteau. Est-ce que c'est Josué Casimir qui a repris ce ballon? Il a propulsé de la tête à bout portant. Le stade est en feu. Touche froide, le but pour Rodez. La touche froide au ballon.
22 minutes de jeu, 1-0 pour Rodez.
Eh oui, joueur de couloir, corridor, évidemment.
C'est
et ça change tout ce résultat, en tout cas ça change tout pour les Bordelais.
Attention Benoît, attention
ouais,
Benoît.
Retour à Bordeaux, incident j'ai l'impression.
Ouais, hein. Je me demande si c'est Lucas Boadès, je crois, qui a marqué ce but finalement. Le latéral droit, il est allé célébrer. Alors devant le virage chute, je me demande s'il s'est pas pris un projectile, il est tout de suite tombé au sol.
Le joueur n'a pas subi une agression physique, il a été repoussé par un supporter ultra bordelais, déjà qui n'avait rien à faire là, c'est sûr, parce qu'il était juste derrière le but.
Oh, le but de pour le football club de Metz. Avec ce ballon, je crois que c'est Sabali et le FC Metz qui consolide sa deuxième place, Benoît.
C'est les supporters qui se veulent irréprochables, qui sont allés faire des grands discours aux joueurs dans la semaine en leur parlant de l'importance de ce match. Ouais. Ils sont en train de tout gâcher. Bon, incroyable, les gars, on est redescendu au sous-sol en conférence de presse où on a pris en cours la conf de Nicolas Rainville, l'arbitre de la partie, qui a dit que le joueur était commotionné après tous les examens médicaux. Il ne pouvait pas reprendre la partie et donc ils se sont soumis au protocole de la Ligue. Match arrêté, match qui ne reprendra pas.
42 000 personnes, un stade plein, une ambiance de fou, de feu et un abruti qui gâche la fête.
Et le but à Valois, le but à Valois, incroyable, dans les dernières secondes, ça change tout ce but, parce que là, les Lavallois vont certainement se sauver. Une dernière tête captée par Antoine Desmas, vécu comme une victoire par la vraie qui mène 1-0.
Beaucoup d'excitation, il y a des supporters qui rentrent sur la pelouse, au tête repas du stade, ah, c'est dommage.
Ils sont en train de rentrer, c'est pas fini.
Image incroyable, Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer en personne qui sont en train d'aller voir les supporters dans le virage, dans le COP pour leur dire remontez en tribune. Dijon n'a pas voulu revenir, Dijon descend en national et l'info à retenir c'est que le Havre retrouve la Ligue 1 après 15 ans d'absence. Les Havrais sont de retour dans l'élite. On n'aurait jamais pu imaginer une telle fin, Sébastien Clausel. Ça c'est sûr, c'était fou. Jordan, toi t'étais concerné sur la pelouse de la Licorne. Je rappelle les scores, du coup Laval a gagné à Amiens 2-1, victoire 2-0 de Guingamp à Grenoble, 1-0 pour Le Havre contre Dijon, 3-2 pour Metz contre Bastia, 3-1 pour Nîmes contre Sochaux, 3 partout entre Niort et Quevilly, 1-0 pour le Paris FC face à Annecy, 1-0 pour Pau face à Caen, 2-0 pour Saint-Étienne contre Valenciennes. Évidemment, match interrompu entre Bordeaux et Rodez. C'est Rodez qui menait 1-0, mais vous l'avez suivi. Évidemment, Buades, le buteur, a été agressé par un supporter ultra bordelais qui est passé sous la bâche et qui est allé s'en prendre à lui physiquement. Match arrêté qui n'a pas repris. La commission s'est réunie lundi. On aura une décision le 12 juin. Déjà, raconte-nous ta soirée folle, Jordan. C'est ça qui nous intéresse. Avant tout, le sportif Laval qui était 18e au coup d'envoi de cette 38e journée. Laval qui était mené au score et à l'image de votre saison, vous n'avez rien lâché. Égalisation de Bobichon à la 68e et but de la délivrance à la 94e, Jordan. Ça devait être fou quand même à vivre.
Oui, c'était fou, c'était incroyable à vivre. C'était comme, je crois que je l'ai dit, je pense le plus beau de ma carrière sportive en club. Je pense que j'ai jamais vécu un moment comme celui-là.
Ah ouais, à ce point.
C'est semblable vraiment à même plus fort que la montée de l'année dernière, parce que la montée, on l'a construite, on l'a amenée tranquillement, et là, ça se joue vraiment sur un coup de dé un peu à la dernière minute. Mais bon, comme tu l'as dit, on n'a rien lâché. Et c'était fou parce qu'on espérait, nous, avec un nul, se maintenir déjà. Et quand on a vu que Bordeaux s'était arrêté, on s'est dit qu'il fallait absolument gagner.
Ah ouais.
On est mené 1-0 quand même en deuxième mi-temps et on arrive à renverser le match pour gagner avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Franchement, c'était... Et puis voilà, la joie avec les supporters à la fin, entre nous, c'était très très fort.
Et d'ailleurs, ça te déclate ton président Laurent Léry dans les médias régionaux, là, il y a quelques jours, je crois que c'était aujourd'hui d'ailleurs, qui dit on veut se professionnaliser encore plus, on va renforcer le staff, il y aura un deuxième adjoint pour Olivier Frappoli, il y aura un nouveau préparateur physique, on veut que nos cadres, nos joueurs cadres restent ici à Laval. Ça a une incidence sur le sportif, évidemment. Laval veut se renforcer pour éviter de se faire peur la saison prochaine encore, en fait.
Oui, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de dossiers éventuellement qui étaient en stand-by en fonction de notre résultat de vendredi dernier. Et voilà, avec ce maintien, le club qui avait déjà travaillé, je pense, en amont, on peut avancer plus sereinement sur certains dossiers, peut-être rassurer des joueurs qui voulaient absolument jouer en Ligue 2 et qui étaient intéressés par le projet Lavalon, mais de Ligue 2 et pas forcément national. Donc forcément, le club va se renforcer. Et pas qu'au niveau des joueurs, oui, que d'après ce que j'ai compris, c'est aussi au niveau du staff. Et la structure, en gros, tout ce qui entoure le stade Lavalon, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par notre président pour améliorer nos conditions d'entraînement et nos conditions de prise en charge, et que ce soit nous les sportifs et même les gens de l'administration. Donc voilà, Laval va dans le bon sens en tout cas, et j'espère qu'on mettra une année plus tranquille l'année prochaine pour continuer de développer ce beau club.
Est-ce que tu peux nous raconter votre retour à Laval, parce qu'il y avait des centaines de supporters réunis au stade Le Basserre pour suivre le match sur écran géant. Ils étaient encore là à votre retour?
Il faut savoir qu'on s'est arrêté quand même à Amiens, chez un partenaire du stade Lavalois, le VNB.
Okay.
Donc on a bu quelques coups quand même avant de reprendre le bus. On est parti qu'à 2h du matin d'Amiens, je crois, 2h30 peut-être. Donc on est arrivé à 7h30 du matin à Laval.
Ouais.
Donc je pense que certains avaient dormi, mais il y a quand même, je crois, une centaine de supporters qui étaient là à notre arrivée à 7h30. Donc,
ah ouais.
Donc c'était quand même cool de les voir. Et,
ouais.
Ouais, des très courageux qui sont venus nous sauter. Si on voulait nous féliciter, nous souhaiter de bonnes vacances pour repartir l'année prochaine, donc c'était chouette.
Et je te remercie encore d'être là. On entend les bruits de roulettes parce que tu es à l'aéroport. Hein. C'est vraiment les vacances.
Exactement.
Pour les joueurs de Ligue 2.
Désolé. Hein.
Évidemment, mais déjà, merci d'être là parce que tu fais l'effort. On va revenir sur ce qui s'est passé. Nous, on était au Havre, tu l'as entendu, antenne délocalisée vendredi soir au Stade Océane. La délivrance pour les Havrais. Ils ont battu donc Dijon 1-0. Ça leur offre le titre de champion et la montée en Ligue 1. Écoute justement la réaction d'un des piliers de cette équipe havraise, Aruna Sangante.
Ouais, c'est un peu perturbant. Enfin, on aurait pu laisser les 30 secondes pour que ça soit encore plus festif, mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Et heureusement qu'il n'y a pas eu des conséquences négatives par rapport à ça. Ouais, bah, on était un peu choqués, surpris. Après, c'est des choses qui arrivent. C'est l'émotion. Tout le monde n'arrive pas à se contrôler, mais on a essayé d'essayer de calmer tout le monde. Malheureusement, comment tu veux calmer 25 000 personnes? Je me suis mis à leur place et franchement, je comprends tout à fait leur réaction. Le mieux, c'est de rentrer au vestiaire pour éviter qu'il y ait quelque chose qui se passe de mauvais.
Alors là, il parlait évidemment de l'envahissement de terrain. Nous, c'est ce qu'on a vécu. Je pense que tu as vu les images. En fait, ils sont rentrés sur la pelouse une minute avant la fin du match. On a craint pour le Havre que ça leur porte préjudice d'ailleurs. C'est des scènes que tu as connues comme ça, des envahissements de terrain à la fin d'un match, toi, Jo ?
Oui, mais après le Red Star l'année dernière, c'était contrôlé, parce qu'on savait qu'on était officiellement champion après le match du Red Star.
Ouais.
Ça a été fait au bon moment, etc. On a eu ce problème-là, nous, en début de saison, je ne sais pas si tu te rappelles, qu'on a gagné Valenciennes 1-0-9.
Ah oui, bien sûr.
Le président de Valenciennes avait râlé parce que bon, c'était même les joueurs donc, qui étaient rentrés sur le terrain deux fois.
Ouais,
c'est comme quelqu'un avait sifflé deux fois la fin du coup, et on était rentrés sur le terrain. Je l'avais vécu aussi au Bénin parce que quand on s'était qualifié à la CAN, on avait eu un gros envahissement de terrain aussi. Mais pareil, à la fin du temps, donc ça s'était passé comme ça doit se passer normalement, comme ça se passe, comme ça s'est passé Nantes plusieurs fois. Ces dernières saisons, etc. Là, c'est dommage de le faire 30 secondes avant parce que ça gâche un tout petit peu la fête alors qu'il n'y avait pas lieu de.
Exactement, mais bon, ça s'est bien fini pour vous, ça s'est bien fini également pour le Havre. Les choses sont complètement différentes à Bordeaux, hein, tu as suivi là aussi, fête a été gâchée au Matmut Atlantique, il y avait 42 000 personnes. On a entendu Christophe Dugarry dans la production sonore qui nous a appelé, qui était en direct du stade, qui était effaré justement par cette histoire. Je rappelle donc que Lucas Boydès a ouvert le score pour Rodez à la 22e, il a fêté son but auprès des ultras, il s'est fait agresser par un supporter qui est descendu, qui est passé sous la bâche. Le club a porté plainte contre le supporter. La commission s'est réunie lundi, il y aura une décision le 12 juin. Déjà, quel est ton regard à toi en tant qu'acteur de la Ligue 2 sur toute cette histoire? Et quel dénouement tu vois, toi, à ton avis, comment ça va se terminer, cette affaire, Jordan ?
C'est compliqué parce que bon, c'est vrai que je lis et j'entends les conférences de presse à droite et à gauche.
Ouais.
Il y a un manque à chaque fois de fair play des différents présidents et acteurs sur ce qui s'est passé, où tout le monde, ben forcément, il y a des enjeux économiques. Donc on le sait, tout le monde prêche sa paroisse, mais je pense qu'il y a quand même une nécessité d'avoir un peu de recul sur ce qui s'est passé et de laisser les instances décider. Moi, je trouve que c'est scandaleux qu'un supporter arrive comme ça, parce qu'il est tout seul en plus, donc je pense qu'il est facilement arrêtable normalement.
Ouais.
Puisse comme ça arriver et atteindre directement un joueur. Après, je suis d'accord avec le fait que, sûrement que, malheureusement, le joueur de Rodez a profité de cet événement-là pour en tirer parti, parce que c'est vrai que quand on voit la poussette, on a du mal à imaginer une commotion derrière et quelque chose de très grave. Donc, au vu des éléments, je trouve que le dénouement, il est un peu indécis. Moi, je vois mal comment il rejouerait le match dans une ou deux semaines. Ça me paraît improbable. Je pense que Bordeaux restera en Ligue 2 et Rodez également. Je vois pas comment ça pourrait être décidé autrement. Et voilà quoi.
Le problème que ça pose, c'est pour ton ancien club Annecy, parce que c'est Annecy qui est lésé dans l'histoire. Bon, Annecy n'a pas fait le boulot sur le terrain parce qu'Annecy a été battu 1-0 au Paris FC. Mais c'est Annecy qui se retrouverait dans ces cas-là en national, parce que si jamais la victoire est donnée sur tapis vert à Rodez, Annecy peut descendre. Écoutez la réaction justement de Laurent Guyot, l'entraîneur annecien.
Parce que le fait que ça dégénère, ça doit pénaliser une équipe et un club qui lui a fait globalement tout ce qu'il fallait. Sincèrement, ce soir, si on doit être dans les quatre, je préférerais avoir une victoire de Rodez. Au moins, je me dis que c'est réglé sur le plan sportif.
C'est ça le problème, c'est que lorsque ça se règle pas sur le terrain, et bah, tout le monde est un peu touché, quoi. Ça serait terrible pour les Annéciens, Jordan, de descendre dans ces conditions, quoi.
Bah oui, ça serait terrible parce que c'était que la 22e minute, donc la probabilité que Bordeaux fasse tout pour revenir et gagner ce match en attendant justement de voir les autres résultats, elle était quand même assez importante. Donc je comprends qu'ils se sont lésés. Et je comprends leur réaction, je pense que j'aurais réagi de la même manière, mais j'ai entendu aussi Bradley Danger qui dit, voilà, s'il y a un supporter qui rentre à la 22e minute parce qu'on a marqué, qu'est-ce qu'on fait à la 90e si finalement on gagne et qu'il n'y en a plus qu'un, mais il y en a des centaines. Donc en fait, je comprends les deux parties. Il y a forcément une équipe qui va se sentir lésée et qui sera lésée, ça c'est une certitude. Maintenant, vu le calendrier, etc., je vois pas comment le match... En plus, ils ont repoussé la décision. Ça aussi, je comprends pas de repousser la décision
encore une semaine. Oui, bien sûr, le 12 juin, donc la semaine prochaine.
Voilà. Donc, je vois pas comment, après le 12 juin, ils vont demander aux joueurs de jouer le 15, le 17.
Mais
ça me paraît improbable, moi.
Là où tu as raison, c'est qu'il faut se mettre aussi à la place des joueurs de Rodez. Quand un des leurs est agressé comme ça, déjà Buades, est-ce qu'il aurait pu reprendre le match? On ne sait pas, parce qu'au-delà du traumatisme physique, il y a le traumatisme moral. Mais ensuite, tu as raison, tu es dans un stade, entre guillemets, hostile. Tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. Tu reviens, t'es pas dans les conditions idéales pour aller chercher ton maintien, quoi. C'est toujours particulier. En fait, c'est délicat de se mettre à la place des Ruthénois aussi, Jordan. C'est ça le problème dans cette histoire.
Ouais, c'est ça. Je pense que moi, c'est plus le choc psychologique à la limite de voir un supporter comme ça. Et comme l'a dit Bradley Danger, c'est d'imaginer le scénario du coup où il y a un autre but, où la victoire sinon on se poursuit et arrive à la 90e et où tu peux plus contrôler les choses parce que. Nous, déjà, Amiens, on ne sait pas pourquoi ils ont envahi le stade, nous. Et les supporters d'Amiens, ils couraient vers nous, donc on n'était pas rassurés.
Ah ouais.
Donc je me dis, des milliers de supporters bordelais énervés contre une équipe qui se maintient et qui leur prive de la montée, je pense que ça peut être très dangereux. Donc on se met forcément à la place des Ruthénois. Et forcément, on se met aussi à la place des Annéciens qui voient leur descente se faire, mais pas sur le plan sportif. Donc... comme j'ai dit, on comprend vraiment tout le monde. Et c'est juste désolant qu'un homme ait pu gâcher comme ça l'avenir sportif de plusieurs équipes.
Et on pense aux familles, évidemment, dans les stades, aux supporters bordelais qui se souviendront toujours de cette soirée cauchemardesque, en fait, parce que tu venais pour une grande fête, tu repars tellement frustré et déçu. C'est vrai que ça donne pas une bonne image du foot. Et puis, est-ce que tu me confirmes, toi, en tant que joueur professionnel, tu me l'as dit, donc le terrain a été envahi à Amiens. Moi, je discutais avec quelques Dijonais à la sortie de la pelouse au Havre vendredi. On leur reprochait aussi de ne pas être revenu sur la pelouse du Stade Océane pour disputer les dernières secondes. Mais en fait, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu sais jamais vraiment ce qui peut arriver, quoi. Quand il y a un envahissement de terrain, le mouvement de foule, etc. Même si au départ, c'est pas forcément, ça peut être bon enfant. Tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. Ça peut être effrayant aussi. Et c'est dur de se mettre à la place d'un joueur. Toi, tu l'as vécu. Ça fait, ça doit faire peur quand même dans ces moments-là, ce qui se passe, quoi.
Non, c'est effrayant. Le pire que j'ai vécu, c'était au Bénin où la foule était tellement dense que, en fait, je ne pouvais pas choisir la direction dans laquelle j'allais.
Ah oui. Ouais.
Donc, je voulais rentrer au vestiaire, c'était impossible. Et je sentais qu'en gros, si je tombais ou si quelqu'un tombait, en fait, c'était très dangereux pour la personne. Mais bon, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais c'est vrai que la même année, nous, j'ai célébré comme un fou aussi. On a célébré devant les supporters d'Amiens parce que le but est arrivé devant les supporters d'Amiens. Mais parce qu'on était euphorique, parce qu'on
ouais, c'était votre joie à vous, bien sûr, 94e.
Oui, voilà.
Bah oui,
c'était, il n'y avait aucun chambrage là-dedans. Mais on voyait les supporters d'Amiens qui étaient complètement fous et qui nous insultaient. Fils de haine, voilà. Et quand ils sont rentrés sur le terrain en courant, et que tu les vois torse nu courir à fond vers nous, en fait, ils allaient vers les supporters à Lavallois, tu te dis que oui, un mauvais geste, un mauvais regard, tout peut basculer. Et toi, t'es un en gros contre 50, donc ça peut avoir des conséquences dramatiques. Malheureusement, le foot, il a montré que les débordements, il y en avait énormément, et que la folie. Pouvait vite être amené dans la tête des gens. Et voilà, c'est un truc contre lequel il faudra encore lutter pendant bien des années, je pense.
Le bruit d'avion derrière toi, c'est pas ton jet privé, hein. Tu prends des...
Non, des... malheureusement, si j'étais en jet privé, je ne ferais même pas l'aéroport, je pense.
Tu vas pas signer comme Benzema en Arabie Saoudite?
Non, alors moi, ce qui me propose le même contrat, je pense que je vais m'entendre avec ma direction. Et vrai, je suis pas sûr.
Okay, c'est sûr. Écoute, voilà, on voulait terminer là-dessus. Je rappelle donc le classement à l'heure où on se parle, parce qu'on attend la décision évidemment du 12 juin. Mais Le Havre, quoi qu'il arrive, sera en Ligue 1. Le Havre est champion de Ligue 2. Metz devrait l'accompagner. Metz a 3 points d'avance sur Bordeaux. Et puis en bas de classement, pour l'instant, Niort, Nîmes, Dijon et Rodez. Mais on attend la décision. Ça pourrait être Annecy qui pourrait se retrouver en national. J'en profite pour te dire une dernière fois merci, Jordan. Ça a été parfait tout au long de la saison, dont on s'est régalé de pouvoir partager cette saison à vos côtés, parce que on était vraiment à l'intérieur du championnat grâce à vous. C'était une expérience passionnante pour vous, donc un grand merci encore une fois, hein, Jordan.
Ouais, mais merci à toi aussi de nous avoir invité à faire ces podcasts avec toi. Comme je te l'ai déjà dit, on s'est régalé nous aussi à le faire, dans les bons moments comme dans les moments plus compliqués. Là, on a forcément une grosse pensée pour Daniel, pour qui on imagine
Daniel Congrès, ouais, exactement.
Que c'est pas facile, mais voilà, je pense qu'on a eu plaisir tous à échanger au fil de la saison et voir un peu les pensées un peu des uns des autres, comment ils vivaient les choses. Donc non, c'était top et c'était une magnifique expérience que j'espère qu'on.
Eh ben écoute.
Qu'on arrivera à poursuivre.
Plaisir partagé, je te le confirme. Il y aura bien une saison 2 de Ligue 2 BKT, le débrief. Je vous ai un peu résumé tout ce qui s'est passé cette année. Ligue 2 BKT, le débrief, c'était 6 joueurs titulaires. Jordan en faisait partie. On peut rappeler ceux qui étaient là. Il y avait Anthony Briançon, il y avait Romain Thomas, il y avait Gaëtan Vesbeck, il y avait Daniel Congrès, il y avait Sébastien Salamonge. 47 invités tout au long de la saison. 13 entraîneurs sont venus justement participer, échanger. Il y a eu quelques hors-séries avec des supporters, avec des clubs, notamment l'AS Saint-Etienne. C'était passionnant. Et puis également, tous ceux qui ont participé. Il y a 19 clubs qui ont été concernés par ce podcast. Le seul qui n'a pas joué le jeu, malheureusement, c'est Annecy. Donc on espère que si Annecy reste en Ligue 2, Annecy jouera le jeu la saison prochaine. Mais voilà, c'était passionnant pour nous. En tout cas, une belle expérience qu'on reproduira l'année prochaine. Et Jordan, écoute, si t'es encore Lavallois, on t'accueille avec plaisir, hein, mon vieux.
Ah, mais moi, je reviens avec plaisir aussi.
Eh bien, c'est noté. OK. Jordan, merci. Bonnes vacances à toi, hein, évidemment. Profite bien, repose-toi. La saison a été dense, mais elle a été magnifique pour le stade Lavallois. Et puis, on espère te retrouver en pleine forme la saison prochaine. OK, Jordan?
Ouais, merci beaucoup. Bonne trêve à tout le monde.
Salut, Jordan. À bientôt sur RMC, dans Ligue 2 BKT, le débrief. Salut à tous.
RMC.
Ligue 2 BKT, le débrief.